C'est parti pour un dimanche de campagne, l'émission qui s'arrête sur les déclarations et les faits politiques du week-end, qui revient ensuite sur la semaine écoulée et vous donne un avant-goût de ce qui vous attend les jours suivants. Au sommaire, comme tous les dimanches, la semaine politique de Cyril Lacarrière, une semaine marquée par la visite d'Emmanuel Macron à Strasbourg, premier discours devant le Parlement européen à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union. Au programme théoriquement l'Europe et rien que l'Europe.
La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral.
Voilà pour les principes, on verra que tout le monde a profité de l'occasion pour faire de la politique. Un dimanche de campagne avec Thomas Legrand, qu'on ne présente plus. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Vous êtes là avec vos fameux bobineaux qui nous permettent de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité. Ce soir, la question de la dispersion des voix à gauche, une vieille histoire qui ne date pas d'hier, on en parlait bien avant la primaire populaire. Et oui, et même entre les deux tours, certains se faisaient prier, comme Georges Marchais en 1981.
Et si je faisais confiance à François Mitterrand et aux socialistes, je ne serais pas membre du Parti communiste et je ne serais pas candidat du Parti communiste.
Avec nous, comme tous les dimanches et tout au long de cette émission, Jean Massier, chroniqueur politique sur Twitch. Bonsoir Jean.
Bonsoir Claire.
Alors vous surveillez la campagne vu des réseaux sociaux et vous nous en donnez un petit aperçu dans Au Like Citoyen. Ce soir, la naissance, on va dire, d'un concurrent pour vous.
Mais oui, une nouvelle chaîne Twitch, celle de Yannick Jadot, ni plus ni moins.
Beaucoup de concurrence, effectivement. Avec nous également deux consoeurs de la presse écrite. Bonsoir Cécile Cornudet.
Bonsoir.
Éditorialiste aux Échos. Et bonsoir Mathilde Sirot.
Bonsoir.
Journaliste politique au Point. Merci d'être là ce soir. Merci également à Cyril Lacarrière qui est à la rédaction en chef, à Stéphanie Texier à la réalisation et à Guillaume Roux qui est à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
On commence avec l'actualité du week-end et on s'arrête tout d'abord sur l'extrême droite car il y a eu quelques mouvements ce week-end. Défection ORN et ralliement à Éric Zemmour. L'avocat Gilbert Collard rejoint le polémiste en disant qu'il n'a rien contre l'ORN ni contre Marine Le Pen mais que c'est en quelque sorte le mouvement de l'histoire. Gilbert Collard sur France Bleu Gard-Lozère.
Vous n'imaginez pas le nombre de gens du Rassemblement National qui, sans avoir de désamour avec Marine, faut pas tout confondre, savent que la vibration, quoi, le rythme, il est passé maintenant du côté de Zemmour. C'est injuste, hein, mais c'est malheureusement le mouvement de l'histoire, le mouvement de la vie. Passe le temps et l'usure se fait. Je pense qu'un jour viendra où Marine Le Pen fera comme moi.
Et c'est peut dire que Marine Le Pen n'a pas vraiment apprécié.
Moi, ce qui me touche, c'est la manière dont c'est fait. Ne pas être même pas capable de décrocher son téléphone pour dire à la personne qui vous a fait élire « j'ai pris la décision d'aller chez un concurrent », ça, je trouve que c'est vraiment déplorable. Voilà, alors, je le dis, il y a une cohérence parce que ce sont des gens qui, depuis le début de la campagne, me reprochent de ne pas partir dans cette folie de la guerre des religions et presque de cette guerre civile qu'ils semblent souhaiter pour le pays. Je ne veux pas de guerre de religion, je ne veux pas de guerre civile, je suis une mère de famille, j'ai des enfants, je veux qu'ils vivent dans la sérénité, dans la paix.
Marine Le Pen sur France 3. Éric Zemmour, lui, boit du petit lait et il annonce son objectif, l'union des droites. Déclaration faite en meeting hier soir à Cannes.
L'union des droites, c'est l'appel que je lance ici. Vous qui êtes patriotes, indépendants, républicains, vous qui étiez hier face à face, vous êtes ce soir côte à côte. À tous ceux qui ne votaient plus, qui n'y croyaient plus, je lance cet appel grave ici. Je lance l'appel des victoires solennelles et joyeux, unissant nos forces.
Voilà pour cet appel lancé avec Gilbert Collard à ses côtés, donc hier soir lors de ce meeting à Cannes. Pourquoi ce ralliement et ces ralliements, puisqu'il y en a eu deux autres aussi au cours du week-end, Cécile Cornudet?
Il les met beaucoup en scène. Pour deux raisons. D'abord, pour mettre les nerfs de Marine Le Pen en pelote. On a vu que ça marchait un petit peu. Maintenant, elle ne peut pas aller dans un média sans passer la moitié du temps à expliquer si ça l'embête, si ça ne l'embête pas. Même si elle essaye évidemment de minimiser. Éric Zemmour est en retard. Il ne trouve pas de second souffle à sa campagne. On sait qu'à l'automne, il avait réussi à faire tourner tout le débat autour de lui grâce à l'immigration. Là, il n'y arrive pas. Donc, il essaye de réactiver quelque chose. Ça, c'est le second objectif de fond. Cette histoire d'union des droites. Il sait que dans l'esprit de beaucoup de gens, à LR et autour de Marion Maréchal Le Pen, au Rassemblement National, il y a l'idée qu'on est au bout de quelque chose en matière de droite, que Emmanuel Macron a lancé une recomposition politique en 2017 sur le centre et la gauche, et que là est venu le temps d'une deuxième étape.
De faire sauter les fameuses digues.
Voilà, donc il y a tout un complot, si vous voulez, tout un plan qui est en préparation, notamment autour de Marion Maréchal Le Pen, avec Nicolas Bay, Thierry Mariani, pas mal de gens au RN. Mais leur idée, c'était plutôt d'attendre la défaite de Marine Le Pen en 2022. Dans deux mois. Et d'organiser quelque chose, voilà, pour faire sauter les frontières. Et Éric Zemmour, comme il n'arrive pas à trouver ce second souffle, eh bien, il essaye d'appuyer sur le bouton plus vite pour que ce mouvement, s'il a lieu, s'il y arrive, il se fasse autour de lui. Donc toute la question maintenant, au-delà des trois qu'on a vus qui ne sont pas des personnalités de premier plan quand même, c'est de savoir si Marion Maréchal Le Pen suivra ce mouvement-là. Il veut d'elle, comme Emmanuel Macron a eu son Bérou en 2017 qui l'a fait franchir un pas. Il espère qu'à la mi-février, elle viendra, plus Nicolas Bay et les autres. Voilà, qu'il y a vraiment un mouvement de recomposition qui soit engagé. C'est son grand pari. Et sincèrement, aujourd'hui, c'est pas du tout sûr que ça marche, parce que Marion, d'abord, elle a beaucoup de pression de la famille Le Pen, et que tous les autres ont toujours dit on le ferait si Éric Zemmour était devant Marine Le Pen dans les sondages, ce qui est loin d'être le cas.
Alors, Cécile Cornudet, là, vous vous placez du point de vue d'Éric Zemmour, mais moi, je voudrais me placer de l'autre côté et comprendre pourquoi des gens partent chez Éric Zemmour alors qu'il est justement pas en très bonne position dans les sondages. Mathilde Sirot, quelle est la raison ?
Alors, si on s'en tient aux déclarations, Jérôme Rivière a dit hier, par exemple, au moins ici, on peut crier on est chez nous. C'est-à-dire que pour une partie des élus, des militants qui étaient jusqu'ici au Rassemblement National, maintenant c'est devenu de l'eau tiède et donc ils vont vers un discours plus identitaire, plus civilisationnel, plus radical aussi, qui est celui d'Éric Zemmour. Et ce qui se joue, effectivement, comme le disait Cécile, c'est un petit peu la prochaine étape de recomposition. Et derrière qui celle-ci se fera? Donc on voit bien qu'il y a une lutte sur l'après-Le Pen, autour de qui ça peut se faire, et est-ce que peuvent converger les colères sociales populaires et les colères identitaires que semble plutôt incarner Éric Zemmour. Après, comment elle réagit? Marine Le Pen, elle en a vu d'autres. Florian Philippot, par exemple, l'avait quitté avec fracas. Jean-Marie Le Pen ne lui a jamais fait beaucoup de cadeaux. Reste à savoir si ses électeurs, pour eux, ça comptera et si ça aura un effet dans sa campagne. Ça, on le verra au cours des jours à venir.
Vous dites, elle en a vu d'autres. Au RN et au FN, on en a vu d'autres. Thomas Legrand, l'extrême droite est peuplée d'histoires de trahison. Hein.
C'est bien sûr, l'extrême droite,
c'est pas vraiment nouveau tout ça.
L'extrême droite, c'est la trahison, c'est les couteaux, c'est la dague. Mais ce qui est intéressant, il faut faire un petit peu d'histoire et un petit peu de science politique sans être trop rébarbatif. Vous savez, faut remonter à dans les années 50, c'était René Raymond qui avait, le grand politologue, qui avait théorisé les trois droites, orléaniste, bonapartiste et légitimiste. Et il y avait cette droite légitimiste, c'était cette droite qui n'a jamais accepté la République, qui n'a jamais accepté la République, et qui reste dans la nostalgie de la monarchie. Et finalement, Éric Zemmour, en disant vive la République et surtout vive la France, et en étant comme ça dans une démarche un peu de guerre civile, réanime cette droite qui était morte des suites de la Seconde Guerre mondiale, qui avait été morte d'avoir collaboré, tout simplement. Et donc le mythe de la réunion des droites et des droites et des extrêmes droites, c'est quelque chose qui court depuis les années 60. Mais quand la droite se déchire, c'est pas rien. Quand la droite se déchire, c'est sur du gros truc, hein. C'est sur la collaboration, la guerre d'Algérie, la République. Donc c'est pas sûr est-ce qu'il faut nationaliser à 100% ou à 51%, comme en 81, entre les différentes gauches. Donc là, est-ce qu'on arrive au bout de la parenthèse qui a été ouverte en 45 avec la droite qui était devenue républicaine et la droite anti-républicaine avait disparu et elle revient d'une certaine façon? Est-ce qu'on arrive à ce moment-là où c'est ou pas? Donc là on a pris un petit peu de hauteur et profondeur, mais
deux mois du premier tour.
Oui, à deux mois du premier tour.
Tentez le tout pour le tout.
Oui, mais on entend des choses quand même quand on commente la politique depuis quelques années maintenant. On entend des choses qu'on n'entendait jamais avant, même du temps de Jean-Marie Le Pen dans la voix d'Éric Zemmour. et qui nous replonge dans l'histoire de la droite française depuis la Révolution.
Jean Massier.
Je vais aller totalement dans le sens de Thomas Legrand. Éric Zemmour est en train de réaliser un vieux fantasme qui a longtemps été dans des cercles intellectuels de la droite.
Il le tente.
Je pense qu'il est en train d'y arriver parce qu'aujourd'hui, je pense qu'une partie de la droite est mature. Dans l'idée de dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a deux droites qui étaient irréconciliables. C'est les héritiers de la collaboration d'un côté, les héritiers de la résistance de l'autre. C'était pas possible, c'était même pas pensable d'être ensemble. Et ça a culminé avec le chiracisme. C'était Jacques Chirac qui parlait du poison de la division. C'était Jacques Chirac qui défendait, un des derniers grands présidents à défendre cette idée qu'il faut jamais l'extrémisme, c'était son fameux discours de 2007, ne composait jamais avec l'extrémisme. C'était Chirac était le dernier avatar de cette droite-là. Éric Zemmour est aujourd'hui en train d'essayer. Effectivement, de dire, on l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, vous étiez face à face hier, vous voici ensemble. Il parle à qui? Il parle à ça, aux héritiers des collabos d'un côté, aux héritiers des résistants de l'autre. Et c'est, vous retrouvez plein de petits...
Des petits codes.
Quand il essaie de réhabiliter le maréchal Pétain, Philippe Pétain, pardon, qui aurait sauvé des Juifs français, en fait, il essaie de réconcilier en disant, après tout, les amis, résistants, collabos, on aimait tous la France. Vous voyez, c'est cette idée-là.
Le glaive et le bouclier.
C'est cette réconciliation qu'il est en train de faire. Et je trouve ça intéressant de voir que c'est en train d'arriver sur la table à un moment, et vous le disiez, au moment où a dynamité, où Emmanuel Macron a réussi à dynamiter, y compris la droite, et peut-être que lui, il voit le moment où ça y est, la bascule va se faire, et enfin, on va recréer cette grande droite toute unie au service de la France.
Sauf qu'elle penche très à droite, quand même.
Très à droite, bien sûr.
Il y a un paradoxe, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, Marine Le Pen, elle est en train de recentrer son discours pour essayer justement de trouver un point d'équilibre entre toutes les droites. On sait que là, elle vient d'abandonner, par exemple, sa proposition de supprimer la binationalité. Donc, lui est de plus en plus à droite du point de vue idéologique.
Ouais, elle est de plus en plus
quand même recentrée. Et par exemple, Robert Bénard, qui faisait partie de ce petit groupe de gens qui préparaient l'union des droites, aujourd'hui il dit je vais avec Marine Le Pen parce que Éric Zemmour est trop à droite pour réussir l'union des droites. Donc en fait, finalement, peut-être qu'elle aussi, elle a intégré l'idée qu'après on allait passer dans une autre séquence et qu'elle, c'est sur le terrain des idées, peut-être, qu'elle essaye de trouver un point d'équilibre.
Alors on verra aussi tout à l'heure quelles conséquences ça peut avoir pour Valérie Pécresse. Mais je voudrais qu'on reste dans l'actualité du week-end. Pour l'instant, l'autre meeting du week-end, c'était hier à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Meeting d'Anne Hidalgo. La candidate socialiste n'a pas vraiment fait le plein. Mais elle poursuit son chemin, même si elle semble encalminée dans les sondages. On l'écoute.
On voudrait que je me résigne, que nous nous résignions devant la difficulté. Alors, à tous ces prophètes de malheur, je leur dis... Mais dans vos rêves!
Voilà pour ce meeting d'Anne Hidalgo hier à Aubervilliers. Thomas Legrand, c'était pas la foule des grands jours?
Non, c'est un peu l'énergie du désespoir, on dirait. Parce que là, c'est vraiment. Il se passe quelque chose à gauche en ce moment. Tout le monde regarde les sondages, pas simplement les sondages d'intention de vote, mais la hiérarchie des items qui vont compter et le pouvoir d'achat monte. Et donc beaucoup de gens à gauche disent alors ça monte. Donc il va se passer quelque chose à gauche. Donc ils s'accrochent à ça et du coup ils veulent pas arrêter leur candidature avant de voir qui et avant de voir si quelqu'un à gauche va bénéficier de ce qui est vrai, c'est-à-dire de cette inquiétude sur le pouvoir d'achat qui devient le premier et qui est de loin maintenant d'ailleurs selon les derniers sondages la première préoccupation des Français bien avant toutes celles qui occupent certaines chaînes de télévision bolorisées qui en ont besoin pour leur audience. Et peut-être qu'on confond un peu l'audience de certaines chaînes avec l'intérêt politique des partis.
C'est un vaste sujet. Mathilde Sirant.
Oui, la gauche dans cette élection est forcément très divisée. Il y a énormément de candidatures. Il faut aussi dire qu'il y a près d'un électeur de gauche sur deux qui dit qu'il va voter pour Emmanuel Macron. On dit effectivement que les thématiques de pouvoir d'achat, etc. sont très importantes, mais le gouvernement fait tout pour y répondre quand même, entre guillemets, avec les chèques énergie, les boucliers tarifaires qui sont mis en place. Donc c'est aussi la raison pour laquelle la gauche a du mal à exister, en tout cas la gauche social-démocrate dans sa tradition. Là, le risque pour Anne Hidalgo, dans cette campagne qui est laborieuse, difficile, c'est de devenir qu'une candidature de témoignage, finalement.
Ce qui est étonnant, c'est que on voit personne à gauche essayer d'aller sur le terrain perdu du centre-gauche, c'est-à-dire Emmanuel Macron, la gauche ne fait pas 25%, là on dit elle fait 25% parce qu'on additionne additionne les candidats de gauche, mais en fait, elle fait plus. Et les autres, tous ceux qu'on ne compte pas, ils sont chez Emmanuel Macron. En ce moment, il y a des gens de gauche chez Emmanuel Macron.
Pourtant, c'est ce qu'elle essaye de faire, Anne Hidalgo. Ce centre-gauche, quand elle part de la responsabilité, quand elle ressort le PS, elle partit de la responsabilité. Ouais, c'est un peu ça.
Oui, un petit peu.
C'est ça qui marche pas, d'ailleurs.
Oui, ça marche pas, mais elle le fait parce qu'elle le... Non, c'est peut-être impossible à faire, je sais pas.
C'est pas le moment.
C'est un peu daté aussi, qui n'a pas renouvelé.
Moi, ce qui me frappe, c'est que c'était, il était très important ce meeting parce que c'était le dernier grand événement avant la primaire populaire, donc dont on va parler tout à l'heure, qui pourrait mettre en selle Christiane Taubira. Donc il fallait qu'elle fasse masse. Or quand vous regardez, il y avait personne autour d'Anne Hidalgo. Il n'y avait pas son équipe des maires avec laquelle elle s'est présentée au départ, les grands-mères socialistes de France. Il n'y avait pas Bernard Cazeneuve qui est censé être son premier soutien. Martine Aubry, elle était seule. Et donc ça donne l'impression qu'elle est...
Elle est seule et elle n'a pas avec elle l'entrain de la campagne. Et on vit en ce moment des moments où on voit des primes à la radicalité. C'est vrai que la vie politique en ce moment est très divisée. Et le score de Sandrine Rousseau non négligeable pendant la primaire des écolos a montré que à gauche aussi, il y a une envie de radicalité.
Elle a essayé
à droite
la radicalité
aussi.
Avec le doublement du salaire des profs.
Elle a essayé,
mais ça
elle a été rattrapée.
Y a chose,
et donc sa campagne faite encore une fois de responsabilité et d'appel au principe de gouvernement cher à la social-démocratie, à la culture du compromis, bah en fait dans les années 2020, ça marche pas très bien.
Alors on a dit qu'on n'allait pas abuser des sondages, mais j'aurais quand même vous citer le dernier sondage Ipsos Soprasteria pour Le Monde et le Cevipof, réalisé les 14 et 17 janvier auprès de 12 500 personnes, ce qui est quand même pas mal si le premier tour avait lieu aujourd'hui. Emmanuel Macron, 25% des intentions de vote. Valérie Pécresse et Marine Le Pen à égalité à 15,5. Éric Zemmour, 13. Jean-Luc Mélenchon, 8. Yannick Jadot, 7. Christiane Taubira, 5. Et Anne Hidalgo, dont on parlait à l'instant, 3,5. Évidemment, pour le Parti Socialiste, il s'agit quand même d'essayer d'atteindre les 5%.
De sauver les meubles, c'est sûr. Et le problème pour elle, c'est que la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'elle va aller au bout de cette campagne? Et on va voir que ça peut bouger, et notamment avec cette primaire populaire qui a lieu la semaine prochaine.
Dont on va évidemment parler.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Un dimanche de campagne, émission qui vous permet de rattraper ce que vous auriez éventuellement raté dans l'actualité politique des derniers jours. Alors, petite révision avec la semaine politique de Cyril Lacarrière. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Claire. Le vent souffle sur la campagne présidentielle et cette semaine, le vent nous a porté du côté de Strasbourg. Une fois n'est pas coutume, mercredi, la classe politique française s'était donné rendez-vous au Parlement européen. Emmanuel Macron était venu y prononcer un discours pour la présidence française de l'Union européenne.
Nous serons au rendez-vous du combat pour la démocratie libérale. Combat pour l'état de droit, pour cette idée simple qu'il est des droits universels de l'homme qui doivent être protégés des fièvres de l'histoire et de leurs dirigeants.
L'occasion était trop belle pour ses adversaires en vue de la présidentielle. Manon Aubry, Jordan Bardella et Yannick Jadot sont montés au créneau pour attaquer le bilan d'Emmanuel Macron.
Oui, monsieur le président, vous êtes le président du mépris, mais au moins vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple vous l'emmerdez.
Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique.
Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up, reporter, renoncer, fantasmer sur des solutions dans 10, 15 ou 20 ans.
Et c'est ainsi que l'hémicycle strasbourgeois abritant 705 eurodéputés se transformait en arène politico-franco-française. Car évidemment, Emmanuel Macron a répondu à ses adversaires. Ça commence par Manon Aubry, puis Jordan Bardella.
Vous avez dit, je vous cite, « La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral ». Et je pense que vous avez tout à fait raison. Vous avez quand même, je dois le saluer, très méthodiquement dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect, mais ça n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités.
Le vent souffle sur la campagne et il sème toujours un joyeux bazar à gauche. Christiane Taubira est donc candidate, Arnaud Montebourg lui ne l'est plus candidat, Anne Hidalgo reste candidate, mais plus à la primaire qu'elle avait appelée de ses vœux, après n'en avoir pas voulu, puis si, puis non. Bref, si vous avez un léger sentiment d'impréparation, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, pense tout comme vous.
pendant 5 ans le travail sur le fond qui devait être fait, de réorganisation, de projection d'un projet, de mise en évidence de talents, n'a pas été fait. Et ensuite, après la phase d'impréparation, nous sommes avec le contexte que nous connaissons dans une phase d'improvisation.
Le constat est implacable et fait étonnant. Il est partagé par la porte-parole d'Anne Hidalgo, Carole Delga. Et comme si la messe était dite pour les socialistes, elle annonce déjà des lendemains douloureux.
Nous n'avons pas été assez près, mais nous avons tous une responsabilité collective et nous allons devoir prendre des décisions douloureuses, mais qui seront courageuses et qui seront possibles pour permettre l'avenir de la gauche.
Le vent de la campagne nous a fait regarder du côté de la télé cette semaine deux moments très différents. Le premier, c'est une séquence coaching faite par Christophe Castaner, vue dans la série documentaire La bataille de l'Élysée sur TF1. On y voit le chef des députés de La République En Marche expliquer aux porte-parole comment il faut s'y prendre avec les journalistes.
Face à un mur de journalistes, vous avez un message à passer, vous écoutez personne. Vous allez devant le mur, voilà mon message. Il y a 14 questions qui vont fuser d'un coup. Vous choisissez celle qui vous intéresse, voire même, c'est pas compliqué, comme il y en a 14, vous répondez à la question que vous auriez aimé qu'on vous pose. Et comme ils sont 14, c'est pas un sujet.
Autre chaîne, autre ambiance, pour un moment rare à la télé, mardi soir. Valérie Pécresse était l'invitée de la nouvelle émission sur BFM TV, La France dans les yeux, une émission présentée par Jean-Jacques Bourdin. Et c'était une invitation périlleuse pour la candidate LR. En effet, quelques jours auparavant, le journaliste avait été accusé par une ancienne collaboratrice d'avoir tenté de l'embrasser de force à plusieurs reprises. Et avant même la première question, Valérie Pécresse, face à Jean-Jacques Bourdin, lâche ceci.
Vous le savez, le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Et trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux, a cherché à minimiser. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte. La loi du silence, c'est fini.
Ce qu'on appelle un moment de télé, mais un moment de télé négocié. Les équipes de Valérie Pécresse ont conditionné la participation de la candidate aux propos introductifs qu'on vient d'entendre. Une condition acceptée par BFM, ce qui explique qu'ensuite le journaliste lise sa réponse avant d'enchaîner sur son émission.
Cyril, pour terminer cette semaine politique, je crois que vous voulez parler cuisine.
Et oui, car cette semaine, sur cette antenne, le vent de la campagne a provoqué comme un choc des cultures. Marine Le Pen était l'invitée de la matinale spéciale présidentielle d'Inter. Elle fait face à Dominique Seux. Petite embrouille sur le chiffrage du programme de la candidate, quand soudain...
Vous mélangez, excusez-moi, mais là...
Bah, moi, c'est quand même de l'argent.
Non, mais moi j'aime bien la tchatchouka, mais enfin, il ne faut quand même pas non plus... à un moment
la
donné,
quoi,
faut, la tchatchouka.
Très bonne salade confite. Très bonne salade confite. Tomate, poivron, voilà,
à un moment
etc.
donné, pardon, monsieur Seux, mais il faut être sérieux.
Merci, Dominique Seux. Je demanderai à ma mère de vous faire une tchouk-tchouka et vous verrez, vous serez convaincu et converti.
Et voilà, la maman de Nicolas Demorand, obligée de se mettre au fourneau pour éduquer Dominique Seux, comme le disait un certain Ménélic. Une question se pose à moi de savoir si j'ai le choix, suivre le tempo ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai été évacué pour la journée, toute forme de soucis.
Merci Cyril Lacarrière, merci pour ce menu très très varié, on va dire. On va peut-être dire un petit mot de Valérie Pécresse, peut-être d'abord pour commencer, sur ce qu'elle a pu dire à la télévision, Cécile Cornudet. Valérie Pécresse joue la carte féministe, on peut dire ça?
Oui. Elle a mis du temps à jouer cette carte-là. Et puis, en fait, elle a compris dans la primaire interne que ça ferait la différence par rapport à ses autres concurrents à LR. Et elle s'est mise en avant comme femme. Voilà, il est temps, femme égale moderne, etc. Donc, c'est vrai que c'était difficile pour elle d'accepter cette émission de Jean-Jacques Bourdin sans rien dire à partir du moment où il y avait l'ouverture d'une instruction judiciaire. Et puis, Valérie Pécresse, elle a besoin de moments. Elle a besoin qu'on sache un peu qui elle est. Elle a besoin de...
Fendre l'armure.
De fendre, oui, que quelque chose se passe autour de sa campagne. Parce que autant à la fin de l'automne, elle avait bien géré les ralliements, autant là, c'est vrai qu'elle a fait référence au Karcher de Nicolas Sarkozy. À chaque fois, elle prend des références de grands parrains. Et au bout d'un moment, ça se voit un peu dans les sondages, les gens ne savent pas qui elle est. Donc je pense qu'elle a besoin de faire des moments comme ça.
J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment sortie de sa campagne pour le congrès interne aux Républicains et qu'elle est sans cesse en train de gérer le flanc droit, de gérer le flanc du centre de sa famille politique. Et c'est vrai, Cécile
le dit. Ce qu'elle a fait cette semaine, hein. Elle est allée voir Laurent Wauquiez.
Elle a vu les centristes, l'UDI. Ouais. Et le risque, c'est de ne pas s'adresser aux électeurs dans leur ensemble, finalement, et de vraiment se focaliser sur les histoires d'appareil. Et pour elle, les Républicains, c'est à la fois sa force, puisque c'est un énorme parti, il y a beaucoup d'élus, il y a encore des militants, mais c'est aussi une faiblesse pour toutes ces raisons et ces éventuelles divisions, de devoir satisfaire et l'un et l'autre, et à la fin, de plus apparaître et de plus être suffisamment forte pour porter une vision.
Elle avait besoin d'aller voir Laurent Wauquiez, c'était important quand même, ça, cette visite.
Oui,
elle a besoin de ce soutien.
Elle a besoin de réunir sa famille.
Jean Massier.
C'est ça l'enjeu pour elle, réunir sa famille. C'est déjà ce qu'a réussi à faire les Républicains en aspirant, du coup, dans le cadre du Congrès, les initiatives individuelles qui étaient la sienne, avec son parti libre et celle du président de la région Hauts-de-France. Et elle a besoin de continuer. C'est ce qu'elle continue à faire avec l'UDI et les centristes elle est en train de reconstruire ce grand parti qui a été l'UMP du début.
Cécile Cornélie.
Et je rajouterais, elle a une difficulté programmatique, Valérie Pécresse, parce qu'elle a fait campagne en interne avec le programme de Fillon. Et donc, on diminue le nombre de fonctionnaires, on va à l'âge sur la norme, etc. Or, entre-temps, il y a eu Omicron. Donc, la réactivation du quoi qu'il en coûte et de ce gros matelas que les Français ont adoré. Donc, arriver dans la campagne en disant non, l'État, les normes, ce gros matelas, on va vous l'enlever, ça ne marche plus du tout. Et en fait, progressivement, discrètement, elle est en train quand même de changer son programme pour mettre le focus sur le pouvoir d'achat, qui était assez secondaire jusqu'à présent. Elle est en train, donc en réalité, elle n'était pas si prête que ça. Elle a été élue à la surprise de tous, et j'ai l'impression un peu à la surprise d'elle-même. Et donc, elle rentre là de plein pied dans la campagne, et il faut qu'elle se construise, y compris du point de vue idéologique.
Alors, on passe à Strasbourg, capitale européenne et capitale de la présidentielle française, cette semaine, en tout cas dans l'hémicycle du Parlement européen. C'était couru d'avance que la campagne présidentielle allait rattraper le président du...
Bon, on l'a su très rapidement quand on a vu qui s'était inscrit pour parler et pour prendre la parole. Ce qui était intéressant, c'est choquant, on l'a tous dit, une enceinte internationale qui n'était pas faite pour ça a été nationalisée pour le compte de la campagne des Français. On a tous expliqué ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'on a vu pour la première fois, en fait, pour la première fois depuis le début du quinquennat, mais parce que c'est nos institutions qui veulent ça, on a vu des hommes politiques et des femmes politiques, des responsables politiques s'adresser directement au président de la République. Dans tous les autres pays, le chef de l'exécutif, c'est le Premier ministre, le chancelier, il est issu du Parlement. Donc il est toutes les semaines devant le Parlement, et il y a un dialogue qui se fait, il y a une confrontation, une vraie confrontation devant les citoyens de leur pays. Nous, on n'a jamais ça. Nous, on a le Premier ministre, mais tout le monde s'en fiche. Quand le Premier ministre est à l'Assemblée, c'est pas lui qui est en charge.
C'est pas lui le chef.
Non, on l'aime beaucoup, mais c'est pas lui le chef. Donc, et on n'a jamais le président de la République n'est jamais face à un responsable politique. Il est face quelquefois à des journalistes. À des journalistes.
On l'a vu un tout petit peu avec le grand débat, quand même.
Des maires de terrain et sur des points très précis. Il est avec des journalistes dans des cadres très négociés, etc. Mais on est le seul pays comme ça.
Le seul moment où le président de la République se retrouve face à des concurrents directs d'envergure nationale, c'est les débats du premier tour d'une élection présidentielle.
Alors, jamais au premier tour, entre les deux tours. Il n'y a jamais eu de débat.
Donc,
en fait, c'est une question de savoir s'il y en aura d'ailleurs.
Quand des Européens nous ont dit vous êtes chiants les Français, vous voulez pas régler votre linge sale en famille, la réponse est on ne peut pas.
Et c'est ce que nos institutions nous en empêchent. Ça a été un moment intéressant, et je pense que si ça existait plus souvent ailleurs, on va pas leur prendre leur Parlement à chaque fois, mais il y a beaucoup de polémiques à la noix qu'on aurait pas, parce que les choses se régleraient et des ambiguïtés sauteraient.
Petite question maintenant qu'Emmanuel Macron, après, a obtenu le pass vaccinal, validé par le Conseil constitutionnel, est allé devant le Parlement européen pour la présidence du Conseil de l'Union. Qu'est-ce qui l'empêche maintenant de se déclarer, Cécile Cornudet? Comment ça va se passer?
Je pense qu'à partir de maintenant, c'est possible. Il attendait, d'autant qu'il a levé beaucoup de restrictions. Alors à partir du 2 février... Je pense pas quand même cette semaine, parce que les gens ils regardent vraiment l'état d'esprit des Français.
Mi-février, on nous dit, mais bon.
Ils nous disent mi-février pour que ce soit un peu avant.
Oui,
et puis
voilà.
Parce que mi-février, c'est les vacances scolaires. Manifestement, ils veulent vraiment que ce soit avant les vacances scolaires de février. Donc à partir de maintenant, jusqu'au mi-février, c'est possible. Mais bon, est-ce que c'est...
Il faut le considérer comme candidat, en tout cas.
Ah oui. Depuis le 12 juillet, je pense qu'il faut le mois. Pour moi, depuis le pass vaccinal du 12 juillet, c'était vraiment un discours devant la Tour Eiffel. Elle n'était pas bleue à l'époque, elle était toute scintillante. Il est candidat à la présidentielle.
C'est ce que lui dit l'opposition, d'ailleurs, chez Mathilde Sirot.
Oui, c'est assez classique ce procès qu'on fait à des chefs de l'État qui, à quelques mois de l'élection, se mettent en mouvement discrètement et de moins en moins discrètement. Emmanuel Macron, effectivement, il est déjà en campagne. On va voir quelle forme il choisit, quel moment il choisit aussi pour cette déclaration, ce qu'il va dire aux Français. C'est aussi ça qui est important. Pourquoi finalement décider de faire un second mandat? Pour faire quoi? On sait qu'il y a beaucoup de ces conseillers qui s'interrogent sur la forme. Est-ce qu'il faut donner de l'importance ou pas? Plutôt ou pas? Ils voudraient banaliser ce moment pour éviter en fait que le regard des Français sur lui ne change, pour qu'il continue de le voir en tant que président et pas seulement que comme candidat. Bon, tout ça est assez...
Oui, pourquoi? Parce que dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu ce passage de président à candidat, le candidat a perdu des points dans les sondages. Donc il veut éviter ça. C'est pour ça qu'il y a une forme de lissage, de plus en plus faire comprendre qu'on est candidat et un jour répondre à une question de façon banale. Bah oui, vous n'avez pas compris.
À la façon de Jacques Chirac qui avait fait ça effectivement en 2002.
En tout cas, vous nous confirmez que ça se prépare dans les coulisses, que les équipes de campagne sont déjà en place. Comment ça se déroule exactement tout ça?
Elle veut des petits détails un peu plus sûrs.
Non, mais quelles sont les... Il y a des équipes qui sont en place. Oui. Ça se passe où? Ça se passe
Alors, ça se passe à différents endroits. D'abord, au QG de campagne qui est adossé au siège de La République En Marche, où là, il y a des équipes, des salariés qui travaillent, qui commencent à prévoir la future campagne. Il y a aussi des groupes de travail qui travaillent vraiment dans l'ombre sur le futur projet. Et tout ça est coordonné de très près par un homme, l'homme clé, c'est Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Et qui lui, il veille à tout, il regarde tout ce qui remonte.
En dehors de ses heures de travail, nous dit-on.
Bien sûr, le soir, la nuit, le week-end.
Voilà. Bien sûr.
Il regarde les comités de soutien aussi qui se créent ici ou là. Donc voilà, c'est à la fois à l'Élysée, hein, malgré tout, et aussi dans les sièges des partis de la majorité.
Cécile Cornu.
Ils ont beaucoup regardé la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012, qui lui, justement, voulait tellement montrer qu'il était encore président, il voulait tellement se
déclarer. Pour faire l'inverse, alors.
Oui, parce qu'en fait, lui, il n'était pas prêt. Il avait rien préparé. Il voulait tellement garder le secret qu'en fait, il n'y avait rien. Parce qu'ils n'avaient rien pu faire. Donc, en réalité, là, c'est un peu différent. Depuis l'automne, il n'y a pas vraiment de mystère sur le fait qu'il y ait des équipes. C'est sorti dans tous les journaux, que c'est dans le QG, le nouveau QG, le nouveau siège de LREMIA, tout un espace pour le QG. Donc, tout ça est assez transparent pour que ce soit prêt. Et effectivement, c'est un homme, deux hommes. Emmanuel Macron et Alexis Kohler qui préparent ça.
Et au demeurant, les élus de la majorité ne s'en cachent pas du tout. Ils estiment qu'il est d'ores et déjà candidat. Mais j'en ai certains qui m'ont dit on est en campagne et on l'assume. Les militants distribuent des tracts. c'est un peu absurde la situation dans laquelle on est. Voilà.
Vu l'état d'ailleurs du parti, c'est-à-dire là, il n'y a pas de problème de leadership. Il y a un chef et pas de parti. Donc heureusement pour eux qu'il est candidat parce que sinon ça n'existerait pas à La République En Marche.
On va passer maintenant à ce qui est plus qu'un bonus dans ce dimanche de campagne. Ça s'appelle Au Like Citoyen. C'est bien sûr avec vous, Jean Massier, à qui rien n'échappe sur les réseaux sociaux. Ce soir, vous arrêtez sur le cas de Yannick Jadot, qui se donne les moyens d'être encore plus présent sur la toile.
Et oui, c'est lundi dernier qu'a eu lieu la naissance d'une toute nouvelle chaîne sur la plateforme Twitch, celle de Yannick Jadot. Alors, je rappelle qu'une chaîne Twitch, c'est un peu comme une chaîne sur YouTube, mais c'est en live. L'animateur d'une émission est en direct et il peut interagir avec son public via un chat. Et c'est ça qui fait toute la puissance de ce réseau quand on joue aux jeux vidéo, qui est plutôt l'usage habituel de la plateforme, mais aussi quand on parle de politique. Et c'est bien de politique que les jeunes utilisateurs de Twitch ont entendu parler sur cette nouvelle chaîne, véritable petite web TV, tout acquise à la cause de l'environnement et bien entendu surtout du candidat. Écoutez un extrait.
Salut tout le monde, ravi d'être avec vous pour cette première de Baron Vert sur la chaîne Twitch de Yannick Jadot.
Et c'est même la première mondiale, en fait, de la chaîne Twitch de Yannick Jadot. Ben oui, on vient de la lancer, donc logique. Alors vous allez un peu essuyer les plâtres avec nous. On se prête avec joie à ce petit jeu. Et on va vous raconter un peu ce que vous avez retrouvé sur cette chaîne, comment ça va se passer, tout ça, tout ça.
Voilà, vous venez d'entendre les voix de Sandra Régol, la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, accompagnée de Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot, qui ont présenté leur émission du lundi. Car c'est une particularité de ce nouveau média. Il propose plusieurs rendez-vous par semaine. Le mardi, on trouvera l'émission « Vers l'infini et au-delà » présentée par Sandrine Rousseau. Le jeudi, c'est au tour de Cédric Villani, ancien député En Marche et véritable prise de guerre des écolos qui soutient Yannick Jadot, qui présente une émission qui s'appelle « Fonds vert », au cours de laquelle il parle avec des avec des experts et des scientifiques. J'espère que vous aurez reconnu les jeux de mots avec vert, évidemment, dans chacune des émissions. Bien sûr, évidemment, à ces premières émissions récurrentes viendront s'ajouter des émissions spéciales, notamment pour les meetings du candidat, des émissions avec le candidat lui-même qui n'a pas encore pris la parole. L'équipe du candidat avec qui je me suis entretenu a beaucoup d'ambition. Ils rechignent pas à la tâche. Ils m'ont expliqué vouloir créer une véritable grille des programmes, comme à la télé ou à la radio, avec des rendez-vous réguliers, à jour et à horaires fixes. Selon moi, c'est une très bonne idée qu'ils ont, les écolos, d'adopter un rythme régulier, comme la plupart des streamers de la plateforme Twitch, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui diffusent des émissions. Il y a un autre élément qui est intéressant sur cette plateforme, les écolos veulent mettre en avant d'autres visages que celui du candidat pour insister sur l'aspect très horizontal, cette culture très collectiviste des écolos, qui est très liée à leur engagement. C'est une manière d'ailleurs de se démarquer de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est sur Twitch depuis un bout de temps et qui véritablement tient la colline. Ce que je veux dire par là, c'est que il a beaucoup plus d'audience, j'en parlerai tout à l'heure, il a des militants qui sont très bruyants, qui le soutiennent énormément. Est-ce que ce pari peut être gagnant pour Yannick Jadot? C'est pas certain. Déjà, l'audience n'était pas très nombreuse sur cette nouvelle chaîne.
On peut le laisser démarrer.
C'est ça, voilà. C'était une première semaine. On parle d'entre 200 et 250 internautes connectés au même moment en train d'écouter les écolos parler. C'est l'équivalent d'une grosse réunion publique, comme on dit les responsables de la campagne. Pour vous donner un ordre de comparaison, une émission de Jean-Luc Mélenchon, ça va tourner entre 6000 et 10000 personnes. On n'est plus sur du meeting à ce niveau-là. Samuel Etienne, le célèbre journaliste de France Info, qui a lui aussi sa propre chaîne, réunit chaque matin entre 4000 et 6000 personnes pour écouter ses revues de presse. Et c'est là que Yannick Jadot en fait s'apprête à faire la mère expérience d'une réalité assez cruelle sur Twitch, c'est qu'une audience, ça se construit dans le temps. Et là, jeter toutes ses forces dans la bataille à quelques mois d'un scrutin, en fait, ça fonctionne pas aussi bien qu'un travail de longue haleine qui se prépare sur des années. C'est notamment ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon et qui lui vaut un beau succès. Donc là, Yannick Jadot, c'est un peu tard. C'est une belle web TV qu'il a lancée. C'est un bel outil de campagne, je pense. Mais à 90 jours du premier tour, c'est beaucoup trop tard.
En tout cas, ça fait pas mal de choses à surveiller pour vous qui êtes tout le temps sur les réseaux sociaux. C'est des nouvelles chaînes qui fleurissent. C'est du boulot.
Ça en fait un paquet. Bon, là, il y en a que deux des candidats présidentiels qui ont une chaîne. Je sais pas si les autres vont se lancer. On verra.
Thomas, vous voyez un petit peu ce qui vous attend.
Oui, c'est trop tard, il paraît. Donc, je ne vois pas pourquoi il serait dans ça. Vous venez de nous expliquer que tout ça était trop tard.
Alors, on en vient à la primaire populaire. Ceux qui souhaitent y participer ont jusqu'à ce soir pour s'inscrire. Les organisateurs annoncent qu'il y a désormais plus de 400 000 inscrits. Cette semaine, une centaine d'artistes ont appelé à rejoindre la primaire populaire dans une tribune publiée par Les Inrocks, parmi eux Juliette Binoche, Charles Berling, Stanislas Nordet, Jean-Pierre Darroussin. Perdre 5 ans de plus serait insensé, disent-ils. Certains avaient prévu de se réunir place de la République à Paris, là, en fin d'après-midi, pour tenter de se faire entendre, alors que Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont demandé qu'on retire leur nom de la consultation. Hier matin, l'une des organisatrices de la primaire populaire, Mathilde Imer, était sur France Inter au micro de Karine Bécard, qui lui a demandé si la méthode consistant à présenter des candidats contre leur gré n'était pas un peu autoritaire.
Aucun des noms sera retiré, on n'est pas une primaire classique, on est une investiture populaire. On les a écoutés pendant longtemps, et je le redis, on a laissé la porte à ce qu'ils puissent se rassembler, je le répète, 85% de leurs électeurs souhaitent le rassemblement. Et c'est majoritaire chez la France Insoumise, chez Écologie Les Verts, au PS. Donc en réalité, ce qui est autoritaire aujourd'hui, c'est d'avoir 5 candidatures qui fait qu'on est sûr de perdre en 2022.
Voilà, les organisateurs continuent comme si de rien n'était. Le vote est prévu du 27 au 30 janvier. Alors même si les candidats s'en défendent, est-ce que vous pensez que le résultat sera commenté et regardé, Thomas ?
Bien sûr, il sera commenté et regardé. Ce qui sera commenté et regardé, d'abord, c'est la participation. Le nombre de gens qui vont voter, alors qu'ils vont pas voter, qui vont noter, puisque c'est ça la particularité. Et il y aura une sorte de moyenne entre... Et on verra celui, la personnalité qui a obtenu le plus de très bons candidats. Je sais pas exactement quels sont les qualificatifs qui sont proposés, mais voilà. Et on va regarder ça. Après, ça sera... Je parlais à un professeur de droit constitutionnel pour savoir quelle pouvait avoir comme force cette... Aucune force juridique, évidemment.
Mais politique.
Politique, oui. C'est...
Il y en a quand même trois qui disent franchement,
oui, mais 400 000 personnes sont inscrites sur cette plateforme. S'ils vont voter à plus de 350 000, c'est quand même pas rien. Hein, 350 000 personnes de gauche qui s'expriment pour dire quelque chose, quoi qu'ils en disent. Moi, je ne peux pas ne pas le commenter. C'est pas rien. Il y a des primaires...
Ce professeur de droit constitutionnel me disait que c'est un vote platonique. C'est-à-dire que ça ne... Voilà.
Bah, politiquement, ça ne dit rien, ça ne veut pas.
Aucune légitimité sortira de ça, c'est un gros sondage, un gros sondage, et ça sera peut-être, on verra. Les autres sont tellement faibles qu'on verra si ça a un impact, on verra l'impact médiatique, effectivement.
Et l'impact dans les sondages, à mon avis, c'est là que ça se joue.
L'impact dans les sondages, oui.
Les partis sont tellement décrédibilisés que là, ça a un vernis, en tout cas, même s'ils ont parfois des travers qu'ont les partis politiques, c'est un vernis citoyen. Et donc, si, par exemple, Christiane Taubira arrive nettement en tête, elle dira, moi, j'ai été portée par une vague citoyenne, je veux le renouveau de la politique, etc. Est-ce que dans les sondages, ça lui permettra, pour l'instant, ça n'a absolument pas marché, mais est-ce que ça lui permettra de faire un tout petit peu, d'avoir un tout petit peu un élan par rapport à Yannick Jadot ou Anne Hidalgo? C'est ça qu'elle joue. Donc, on le verra pas le soir du résultat, on le verra dans les 15 jours qui suivent. Est-ce que dans les sondages, il se crée quelque chose? Parce que là, ce serait très difficile à Yannick, à Anne Hidalgo de rester si elle est distancée.
Oui. Est-ce que dans les sondages, il y aura quelque chose? En fait, à l'issue, il y aura soit une candidate de plus, soit autant de candidats.
C'est 15 jours après.
Donc, au départ, c'était pour dégager un candidat.
Il y aura peut-être quelqu'un qui pourra dire, moi, j'ai été désigné, choisi, préféré par plus de monde que lors de la primaire écolo.
Ce qui sera intéressant, si c'est pas Christiane Taubira qui gagne.
Et que Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a une investiture citoyenne, pour reprendre le mot qu'il a utilisé, avec plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont cliqué pour soutenir sa campagne, là, si un quelqu'un a largement processus. En tête d'un vote à 400 000, ça n'est pas inintéressant.
Je vous cite ce qu'a tweeté Christiane Taubira tout à l'heure. Aujourd'hui est un jour décisif. Jamais dans une élection présidentielle en France, des centaines de milliers de citoyennes et de citoyens n'avaient décidé de s'organiser eux-mêmes pour choisir leur candidat. Voilà. Donc,
C'est son pari. C'est sûr que elle a tout de suite voulu légitimer cette désignation. Donc pour elle, maintenant, il faut la gagner pour dire, vous voyez, il y a un élan populaire derrière ma candidature, donc j'ai ma place dans cette campagne.
On en arrive au bobino de Thomas Legrand. C'est pas la première fois, loin de là, que la gauche part désunie à la présidentielle, Thomas. Mais ce que nous apprend l'histoire, c'est que l'union n'est pas forcément une garantie de victoire.
Ben oui, en ce moment, à gauche, on vient d'en parler, tout le monde parle uniquement d'union, que d'union, avec cette idée bien ancrée, surtout depuis avril 2002, selon laquelle, sans union, pas de victoire. En réalité, les deux fois où la gauche a gagné la présidentielle, elle était bien désunie, 1981 et 2012, 5 candidats à chaque fois. Mais surtout, les deux seules fois où la gauche s'est présentée unie, et bien unie, et ben elle a perdu en 1965. François Mitterrand réunit les radicaux, les communistes, les socialistes et divers démocrates. Il met certes le général en ballottage, mais il perd, alors que la droite, elle est vraiment désunie. Et en 1974, surtout, pareil, face à une droite désunie et même déchirée, François Mitterrand et le PS représentent toute la gauche non extrême avec les communistes et les radicaux. Écoutez.
Ils n'osent pas dire ce qu'ils sont. Moi, je le dis, je suis candidat de la gauche. Mais je n'ai personne en face de moi. Ils ne veulent pas reconnaître ce qu'ils sont. Auraient-ils honte du passé historique de la droite? Supposez que la droite l'emporte. Où sera la paix sociale quand il s'agira de faire le compte des injustices et que le peuple révolté d'en subir tout le poids commencera à poser des questions directes?
Oui, il peut parler au nom de la gauche contre la droite, c'était bloc contre bloc. Et en 1981, 4 ans après la rupture du programme commun, à gauche, la gauche communiste et socialiste, et même les radicaux, sont divisés. François Mitterrand se qualifie quand même. Et écoutez, en quels termes aimables Georges Marchais, pour le Parti communiste français, appelle à voter pour le socialiste, en bien que mal, au second tour.
Mais si je faisais confiance à François Mitterrand et aux socialistes, je serais pas membre du Parti communiste et je serais pas candidat du Parti communiste.
Vous appelez à voter pour lui, faut être logique.
Mais non, je fais confiance d'abord à mon parti.
En ce moment, à partir du moment où vous appelez à voter pour lui, que vous le vouliez ou non, vous roulez pour lui.
Alain Duhamel, vous m'avez déjà vu rouler gratuitement, moi?
Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous pouvez faire?
Est-ce que vous m'avez déjà vu rouler gratuitement?
Ça fait toujours plaisir de réécouter Georges Marchais, pour les plus vieux d'entre nous, n'est-ce pas? Ce qui compte, en fait, c'est pas l'union, bien sûr, c'est la dynamique. Et ça ne se décrète pas, la dynamique, ça se constate. Écoutez François Mitterrand en 1981.
Quand je vous dis, camarades, unissez-vous, faites comprendre, faites aimer entreprise de l'histoire dont nous sommes les interprètes. Quand je dis vive la République et vive le socialisme. Nous sommes entendus. Il y a comme un mouvement dans les esprits. L'espérance prend corps. Et nous pouvons gagner.
Alors là on, vous voyez, la dynamique politique, c'est un phénomène, en fait, un phénomène historique. Et en politique, 1-1, ça fait pas forcément 2. On se souvient de la dernière élection avec Hamon et Jadot. La politique n'est pas une science exacte, et c'est pour ça qu'on peut la commenter à l'infini.
Mais c'est quoi la morale de l'histoire pour aujourd'hui?
Bah, c'est pas la peine. C'est pas parce qu'on est...
Non, parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'arrête pas de dire, effectivement, que c'est pas forcément une garantie de victoire.
Jean-Luc Mélenchon a raison, il connaît l'histoire. C'est, l'union n'est pas du tout la garantie pour vaincre, mais il faut qu'une dynamique se crée. Et Jean-Luc Mélenchon, là, il a tort parce qu'il n'arrive pas à créer la dynamique, pour l'instant, du moins.
Il en avait une en 2017, et là.
Il en avait une et il n'a pas su la concrétiser, et finalement, il ne s'ouvre pas assez. Je ne sais pas. En tout cas, la dynamique, c'est un phénomène historique. On l'a bien vu dans ce son de François Mitterrand qui était porté par l'histoire.
Ça fait jamais de mal de se remémorer effectivement ces moments politiques.
France Inter. Un dimanche de campagne. Claire Servageant.
Cette émission touche bientôt à sa fin. Alors, on voudrait qu'on dise un petit mot de la semaine à venir pour terminer. On a légèrement abordé la question tout à l'heure, mais l'exécutif va devoir se préoccuper du pouvoir d'achat, de l'inflation, du prix de l'énergie, du carburant. Mathilde Sirot, Emmanuel Macron sera dans la Creuse demain, puis en Haute-Vienne. On va dire quoi, il va voir la France qui prend sa voiture. D'ailleurs, vous allez le suivre, c'est ça?
Absolument. Un déplacement de 2 jours sur la ruralité pour Emmanuel Macron, à la rencontre des habitants, à la rencontre des élus. Il va aborder plusieurs sujets, notamment celui de la désertification médicale. On sait qu'il y a un manque de médecins à beaucoup d'endroits en France. C'est un sujet très important. D'ailleurs, la préoccupation sanitaire aussi est très forte dans l'opinion. Donc pour lui, voilà, c'est un déplacement de 2 jours au contact, sur le terrain, pour faire vibrer aussi la fibre des territoires.
On se demande pourquoi ces sujets n'ont pas déjà été amorcés, Cécile Cornudet, parce qu'on sait que quand il y a eu les gilets jaunes, le grand débat, par exemple, le manque de médecins, les déserts médicaux, ça venait quasiment en tête dans les doléances des Français.
Oui,
on a perdu du temps.
Oui, ça reste un problème et c'est vrai qu'il va parler de ça. Après, vous parliez du prix de l'énergie. Moi, je suis étonnée, il n'y a pas un seul rendez-vous dans ces 2 jours dans la Creuse et dans la Haute-Vienne consacré au pouvoir d'achat. L'exécutif considère qu'il a déjà beaucoup fait, aimerait bien réinventer l'exercice, arrêter avec les chèques, les baisses de cotisations dans la campagne d'Emmanuel Macron. Manifestement, ceux qui réfléchissent à son projet disent il ne faut plus qu'on agisse comme ça sur le pouvoir d'achat, il faut qu'on mise tout sur le plein emploi.
Ça
et
va c'est quand ça. Même être difficile et d'échapper ça, à la question de l'inflation.
Ça va être très difficile. Aujourd'hui, Gabriel Attal a dit on n'est pas dans la période des gilets jaunes, mais ça, pour moi, c'est la grande interrogation. Pas sûr qu'une personne qui va le rencontrer ne va pas lui parler de son plein d'essence.
Thomas Legrand.
Oui, le plein d'essence.
Vous confirmez?
Je confirme
qui risque bien d'être confronté à des,
bien sûr,
à des
bien
Français sûr, qui vont lui parler de cette question.
Bien sûr, on entend Bruno Le Maire ces derniers jours expliquer qu'il prépare d'autres mesures. Donc tant qu'il n'y a pas les autres mesures, je pense pas qu'il va aller... évidemment, quand il va rencontrer des Français, c'est ce qui va lui être dit, j'imagine. Mais il y aura des déplacements sur ce sujet quand ils auront trouvé la martingale. S'ils la trouvent, je pense qu'ils sont un petit peu dans l'impasse. Ils vont pas multiplier les chèques.
Ça va commencer
à se voir.
Le quoi qu'il en coûte, là, il va falloir...
Le quoi qu'il en coûte se poursuit de toute manière. Ensuite, sur ce déplacement, Emmanuel Macron n'a pas prévu d'annonce, a priori. Donc ce ne sera pas le format. On verra si le gouvernement ajuste certaines choses.
Chaque annonce peut devenir aussi quelque chose d'assez contre-productif parce que ça peut être très opportuniste, vu comme opportuniste.
Électoraliste.
On suivra ça en détail cette semaine. Merci à tous. Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, Mathilde Sirot, journaliste politique au Point. Vous partez tout de suite pour votre déplacement de campagne dans la Creuse. Jean Massier, mille fois merci. Thomas Legrand, à vous aussi. C'est terminé.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous ?
Tous les Français !
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République !
Vive la liberté !
Vive l'écologie !
Et surtout, surtout,